Charles de Foucault, explorateur au Maroc. Des yeux qui éclatent de paix et de joie silencieuse, un sourire humble, et derrière ce portrait un désert ouvert sur l'infini. C'est l'image qui nous est restée de Charles de Foucault, que nous lions spontanément à l'Algérie, ce pays où il a passé les 15 dernières années de sa vie. C'est aussi là-bas qu'il est mort, le 1er décembre 1916. Et pourtant, il faut imaginer que ses yeux sont tournés vers un pays tout proche, qu'il a aimé profondément toute sa vie, et que ses biographes, il faut bien le reconnaître, ont un peu négligé. Le Maroc. Quelle joie, écrit Charles de Foucault quelques mois avant de mourir. Quelle joie, si jamais je revois le Maroc. Cette aventure d'un an, dans laquelle il s'est lancé à l'âge de 24 ans, l'a donc marqué toute sa vie. 20 ans, 30 ans après, son entourage l'atteste, il ne pense qu'au Maroc, écrit son vieil ami Lapérine. La question est là, immense, rarement posé dans les nombreux livres qui racontent la vie de l'explorateur, devenu moine, missionnaire et saint de l'Église catholique. Que s'est-il passé là-bas de si important pour que le désir de revenir dans ce pays l'anime jusqu'à son dernier souffle? Alors nous sommes en 1882, quand tout jeune officier, Charles de Foucault est en opération dans le sud d'Oran, en Algérie. Vers l'ouest, il aperçoit les chaînes de montagnes de l'Atlas, encore largement méconnues. Le désir de voyager le brûle. Je déteste la vie de garnison. Je trouve le métier des armes assommant en temps de paix. À quoi bon traîner sans aucun but une vie où je ne trouve aucun intérêt? J'aime mieux profiter de ma jeunesse en voyageant. Voilà ce qu'il écrit à son ami Gabriel avant de partager, quelques mois plus tard, son projet. C'est décidé, j'irai au Maroc. Voilà qu'il démissionne de l'armée, et qu'il se prépare pendant un an en étudiant l'arabe, l'hébreu, la géographie à la bibliothèque d'Alger. C'est là qu'il fait la rencontre d'un juif âgé d'une cinquantaine d'années, grand, fort, raconte-t-il, mais voûté, et marchant avec l'hésitation de ceux qui ont une mauvaise vue. Quand il fut près de moi, je vis qu'il avait des yeux rouges et malades. Il portait une longue barbe noire mêlée de poils blancs. Sa figure respirait plutôt la bonhomie et la paix qu'autre chose. Charles de Foucault n'a pas idée peut-être qu'il a sous les yeux le légendaire Mardoché Abisserour, qui a traversé plus d'une vingtaine de fois le Sahara, auteur de nombreuses expéditions botaniques, diplomatiques, archéologiques pour le compte de la France. C'est sûrement Mardoché qui lui recommande de porter le costume juif dans ce pays où, à l'époque, les chrétiens n'étaient pas tolérés. Mais on voit déjà que Foucault fait la part des choses entre la religion d'une part et le contexte colonial d'autre part. Je cite cette courte phrase dans l'avant-propos de son livre « Reconnaissance au Maroc ». On craint le conquérant bien plus qu'on ne hait le chrétien. Et justement, chrétien, Foucault ne l'est pas vraiment à cette époque, il ne croit pas en Dieu et n'a aucune pratique religieuse. Ce qui l'attire, c'est l'inconnu. Le Maroc est en effet le seul pays du monde arabe à avoir résisté pendant des siècles à l'expansion de l'Empire ottoman. Cet empire qui s'effrite depuis un siècle est bien connu des Européens. Le Maroc, lui, a jalousement conservé son indépendance. Foucault constate que seul un cinquième du territoire est connu. Dès le débarquement à Tanger, le 20 juin 1883, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est sensible à tout ce qu'il y a de singulier dans les paysages, les coutumes et les villes qu'il traverse. Je le cite. Ce n'est que vie, richesse, fraîcheur, des sources jaillissent de toutes parts. À chaque pas, on traverse des ruisseaux, ils coulent en cascade parmi les fougères, les lauriers, les figuiers et la vigne. Nulle part, je n'ai vu de paysage plus riant, nulle part un tel air de prospérité, nulle part une terre aussi généreuse, ni des habitants plus laborieux. À l'évidence, Charles de Foucault est sous le charme d'un pays qui respire un climat et un art de vivre qui le séduisent. Il en témoigne dans ses lettres à ses amis et à sa sœur Marie. Alors il faut imaginer son itinéraire de plus de 3000 km comme une gigantesque boucle à travers l'empire chérifien, passant par Tétouan, Chefchaouen, Boujad, Beni Mellal, les provinces du Haouz, du Sousse et du Djebel Bani. À pied ou à dos de mulet, son périple constitue un témoignage inestimable pour l'histoire du Maroc. Foucault est bien souvent le premier à décrire des localités ou des tribus. Il évoque la puissance des berbères Zayan, Idaoublal ou Riata. Il est le premier à distinguer la chaîne du Moyen Atlas, à décrire les neiges de l'Adrar Tizine Glaoui, les vallées du Todra, de l'Ouadardat et du Khéris. Cet inventaire précis des moindres cours d'eau, du nombre de cavaliers dans chaque tribu, fait peser sur lui un doute persistant. A-t-il été un espion ? Alors, à plusieurs reprises, trois fois exactement, c'est vrai que Charles de Foucault semble souhaiter l'arrivée prochaine de la France dans l'empire chérifien. Comme à Tazin, où il prétend que les habitants espèrent l'arrivée des Français pour les débarrasser des berbères riyata. Foucault est un homme de son temps, sensible à l'extension de l'empire colonial français, presque irréversible dans la région. Pour autant, il n'est ni payé par l'armée française, ni secrètement envoyé pour du renseignement militaire. Il ne figure pas dans les fichiers des archives militaires de Vincennes, où des cartons entiers sur les missions d'espionnage ne mentionnent même pas son nom. À son retour, son travail est public, la reconnaissance au Maroc est accessible à tous. Il l'envoie lui-même à une revue allemande et l'Allemagne est précisément une puissance ennemie et concurrente de la France au Maroc. Les choses sont claires, Foucault n'a jamais été un espion. Son travail et la carte annotée de ses renseignements sont même offerts au sultan du Maroc en 1887 lors d'une mission diplomatique. Alors si Foucault ne livre pas les plans des places fortes marocaines, s'il ne précise pas quel calibre d'artillerie peut passer sur les chemins, qu'a-t-il appris, au fond, de son long voyage ? Il faut imaginer les deux explorateurs avancer jour après jour en demandant la protection des tribus qu'ils traversent, profitant des caravanes de juifs, de marchands, de pèlerins, hébergés le soir dans les synagogues ou chez les familles juives les plus riches quand il y en a, dormant souvent dehors, profitant de la maison de quelques protecteurs musulmans. Un des lieux marquants de ces haltes ont été les zaouïas, très nombreuses au Maroc, des sortes de maisons religieuses destinées à l'enseignement, au pèlerinage ou au culte d'un saint. Foucault découvre en particulier celle de Boujad, celle de la tribu des Afikoura ou de Bin Yaqob, dans l'Anti-Atlas. Ce modèle l'inspire toute sa vie. Les Zaouïas tirent leur nom du verbe « inzawa » en arabe, qui signifie « se retirer ». 30 ans plus tard, il imaginera des petites fraternités de moines retirés à l'écart des grandes villes pour prier et accueillir les plus pauvres. Un jour, dans la région saharienne du Djebel Bani, Foucault est retenu par les marabouts de Mrimima, à l'orée du désert. Sous prétexte que des pillards l'empêchent de continuer son voyage, résigné, après une semaine enfermé dans cette prison dorée, Foucault et Mardoché appellent au secours un musulman de la région rencontré un mois plus tôt. Un mendiant transmet leur message discrètement. Cet ami, le musulman Ashburim, arrive un matin à la tête d'une troupe de cavaliers et de fantassins pour libérer les deux explorateurs au péril de sa vie. Cet homme accompagnera Foucault pendant 3 mois pour le protéger. Et au moment de le quitter, pour la première fois, une émotion affleure dans le livre de notre jeune explorateur. Je le cite. « Je fais mes adieux au Ashburim, et ce n'est pas sans émotion que je quitte cet homme qui a été si bon avec moi, avec qui je viens de vivre pendant 3 mois, et que je ne reverrai peut-être jamais. » Cette expérience de la fidélité à la parole donnée, de l'amitié qui va jusqu'à braver la mort, s'accompagne d'une expérience de pauvreté, d'abandon et de vulnérabilité. Une autre fois encore, Foucault et Mardoché arpentent la région stépique du plateau du Rekam sous la protection de 3 cavaliers, quand d'un seul coup, 2 d'entre eux font tomber à bas Charles de Foucault et s'apprêtent à le tuer, quand le 3e, Belkacem, s'interpose courageusement. « Vous n'aurez sa vie qu'avec la mienne » crie-t-il pour dissuader les 2 pillards. Pendant 1 jour et demi, Charles de Foucault est ligoté et recouvert de son capuchon, entend les 3 hommes débattre de son sort. La nuit, ils font halte au bord d'un ravin et Foucault témoigne. Étrange situation d'entendre durant 1 jour et demi agiter sa vie ou sa mort par si peu d'hommes et de ne rien pouvoir pour sa défense. Il n'y avait point à agir. On entend dans ces mots comment l'abandon et l'acceptation d'une certaine dépendance ont transformé le jeune Charles de Foucault. Belkacem finit par obtenir la vie sauve de son protégé, contre son silence, aux environs de la ville de Debdou. Ruiné, il vend ses mulets pour terminer son voyage de retour en Algérie. Rentré en France, Foucault travaille à l'écriture de son livre qui reçoit les palmes académiques de la Sorbonne et la médaille d'or de la Société de géographie. Il commence discrètement à se poser la question de Dieu. La découverte de l'amitié avec des musulmans au Maroc le bouleverse et il écrit dans une lettre à son ami Henri de Castres « La vue de cette foi, de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. » Foucault a 28 ans et il se pose la question de l'existence de Dieu. C'est un nouveau chapitre de sa vie qui s'ouvre et que nous verrons dans le prochain épisode.
ارسم لي دار بتواغي كبار بشرح ما تربي تدخل للقلب ارسم لي طير كطير الحر حتى واحد مكسب أرسم لي طريق في وسط غابة شفت الدابة تمشي في الغنم والراعي دايرين بيه ديابة هدا يغمس وهدا يسلم البارح شفتك في المنام وبرنص جدي فوق كتفك كل جهة داير بيك الحمام كلمة الحق تضحك خارجة من فمك أرسم لي بحر يكونش غامق شحال من واحد غمر وغرق خطر بحياته وفرق دموعي مال الممات تحرق قرصم لي أحباب في غفلة راحت نسمة العشية حصدت ودات خلت لي جرح ساكن في الدات دنيا في عيني كشمعة دابت البارح شفتك في المنام وبرنص جدي فوق كتفك كل جهاد يربي كل حمام كلمة الحق خرجة من فمك ارسم لي بلاد حدودها جنة لا حاكم ظالم فيها لا حرب جنة على الارض معمرة بالورد ودري صغار تجري وتلعب ارسم لي بلاد من الشرق للغرب وارسم ويدان تجري فيها ناس حفيانة تمشي فوقدها واشتقت لي ارويها شفتك في المنام برنص جدي فوق كتفك كل جهاد يربيك الأحمام رسم لي بلاد مرسمها في النام رسم لي تبسيمة تسيل عربي كرات نشوف دل في وجه إنسان دم الأحرار سكن قلبي رسم لي بلاد مرسمها في النام رسم لي تبسيمة تسيل عربي كرات نشوف دل في وجه إنسان دم الأحرار سكن قلبي.